Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, le Ravi Radio Grenouille, une émission présentée par Michel Guéraud et Rafi Amal. Je vous rappelle que le mensuel Le Ravi se trouve dans tous les kiosques de la région. Vous pouvez également vous abonner ou retrouver certains articles sur le site du journal www.leravi.org. Au cours de cette émission, il sera question d'Aix-en-Provence et des primaires socialistes. Et avec nous pour en parler, un des candidats déclarés, Édouard Baldo. Bonjour.
Bonjour.
Une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Le style, c'est l'homme, c'est aussi la femme. Celui de Madame le maire d'Aix-en-Provence, qui ferait passer les poissonnières du Vieux-Port pour des demoiselles de la Légion d'honneur, marquera les mémoires. Le vôtre est un tantinet plus châtié que celui de Maryse Joissin. Les journalistes qui aiment le spectacle s'étonnent presque du ton que vous donnez à votre campagne de candidature pour la primaire, qui désignera en octobre le candidat socialiste. Pas d'attaque nominative, peu de petites phrases, un goût prononcé pour les dossiers de fond, l'éthique en bandoulière avec la volonté d'en finir avec le népotisme, le clientélisme et le clanisme. Et faites quand même attention, hein, n'oubliez pas qu'une élection n'est pas un concours de vertu. Votre modèle en politique, c'est Félix Cicolini. Les auditeurs du Grenouille, les lecteurs du Ravi ont beau être les mieux informés de la région, permettez-nous de faire un rappel. Il s'agit du maire d'Aix, SFIO puis PS de 67 à 78. Né en Algérie, vous êtes arrivé à Aix en 64 pour vos 16 ans. Vous y prêtez serment d'avocat en 69. C'est au barreau, dont il est aussi membre, que Cicolini vous repère. Vous devenez son collaborateur, puis son adjoint. Dans les années 80, lorsque la droite emporte la ville, vous découvrez les joies de l'opposition dont vous êtes le porte-parole. Mais vous côtoyez aussi les hautes sphères ministérielles auprès de Robert Badinter, Charles Hernu et du président Mitterrand. Votre carrière professionnelle prend pourtant le dessus sur votre carrière politique. Avocat d'affaires, polyglotte, votre job pour la grande distribution vous conduit dans 19 pays. Votre idylle avec Carrefour écrase peut-être les prix, les petits producteurs et les petits commerçants, mais pas toutes de vos convictions. Adhérent de la Ligue des droits de l'homme, vous êtes aussi l'avocat des mouvements féministes qui militent pour le droit à l'avortement. Aujourd'hui, à 65 ans, vous renouez directement avec les batailles politiques. Vous êtes parti le premier pour la primaire socialiste. Vous êtes presque le seul à mener campagne. Mais saurez-vous créer la surprise en arrivant en premier?
Édouard Baldo, un commentaire sur ce portrait à la sauce ravie?
On va écouter sur ce portrait. Moi, je n'ai rien de particulier à dire. C'est un excellent résumé d'une longue vie professionnelle et d'une longue vie politique aussi.
Voilà. Au service de la grande distribution, en partie.
Oui, en fait, non. Un avocat, vous savez, n'est pas au service de tel ou tel. Un avocat fait son métier. Il se trouve que moi, j'ai été dans ce secteur économique quand il n'existait pas. Et donc, par définition, j'ai travaillé dans ce secteur que j'ai trouvé intéressant, sympathique, et qui ensuite m'a demandé de faire des démarches à l'étranger. Et donc, c'est ainsi que j'ai eu à négocier avec un certain nombre de gouvernements étrangers pour le compte de groupes français, et c'est ainsi que j'ai pu les faire rentrer dans les territoires gérés par ces gouvernements.
Vous êtes un suppôt de la mondialisation pour simplifier beaucoup, beaucoup les choses?
Je suis un avocat qui a servi l'exportation des groupes français.
Michel Guéraud.
Alors on débarque par l'actualité nationale. Le mariage pour tous, c'est adopté. Les premiers mariages vont avoir lieu entre personnes de même sexe. Il y avait pourtant encore... Il y a peu, ce week-end, une grande manifestation avec un rejet toujours d'une partie de la population radicalisée. Vous en pensez quoi de cette réaction, même après l'adoption de la loi?
Voilà, vous avez dit le mot qu'il fallait, c'est le mot réaction. Moi, j'ai vécu l'évolution du Code civil à partir d'un moment où, quand j'ai démarré, la seule filiation reconnue, c'était la filiation légitime. Dans le Code civil. Les enfants naturels, les enfants incestueux, les enfants adultères n'existaient pas. Et puis, au fur et à mesure, le Code civil s'est adapté à la réalité des choses. Aujourd'hui, nous avons certaines réalités auxquelles il faut s'adapter. Voilà. Alors le mariage tel qu'il est, c'est un acte d'état civil. Et lorsqu'on fait un acte d'état civil, on ne va pas regarder les choix sexuels des gens auxquels on accorde cet acte d'état civil. Point. La loi est sortie, elle est sortie, point final. Voilà. Mmh.
Derrière ce point de crispation, on voit bien que les opposants au mariage pour tous sont plutôt opposants à l'adoption par les couples de même sexe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez, les opposants en question, moi je les ai connus à l'époque où ils étaient opposants à l'avortement. Et moi, j'étais l'avocat, le seul avocat masculin, du mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Ils étaient opposants à la reconnaissance des droits des enfants naturels. Bon, et ils sont toujours opposants à quelque chose. Et donc, ils sont opposants à l'évolution de la société. Ils sont encore opposants à une évolution de la société. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Et à la prochaine évolution, ils seront encore opposants parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la réaction.
Mais vous comprenez quand même cette radicalité, au moins cette peur, cette appréhension quand certaines personnes vis-à-vis de ce changement dit de civilisation, ils étaient assez nombreux dernièrement, 150 000 à protester, certains continuent, la loi a été votée et ils continuent à protester. Vous les comprenez quand même ou il y a une vraie cassure ?
Oh, moi je pense que à titre individuel, chacun pense ce qu'il veut et gère sa vie comme il le veut. Mais on est un État laïque, c'est-à-dire un État dans lequel l'expression des libertés doit pouvoir se faire. Alors, au nom d'une certaine philosophie personnelle, on n'a pas à vouloir faire abroger une loi ou interdire aux autres d'exercer leur choix. Voilà, c'est comme ça que je m'inscris, moi.
Ça a déjà été le cas par le passé, quand même. Hein. L'exemple du CPE est repris en boucle. Le gouvernement est revenu sur une loi qui a été votée parce que la rue a fait pression.
Eh bien, on a beaucoup critiqué le président Hollande en disant qu'il n'avait pas d'autorité, etc. Cette fois-ci, il faut reconnaître qu'il avait promis, il a tenu, et les poussées de la réaction ne l'ont pas fait changer d'avis.
Michel. Voilà.
Alors, autre sujet d'actualité, Gérard d'Allongeville, l'ancien maire de Denain-Beaumont, parti socialiste, mis en examen pour faux et usage de faux, détournement de fonds publics et de favoritisme. Et je mets en rapport avec un autre fait plus local, Anna Rosso-Rouag, candidate Front de Gauche aux législatives à Marseille, aux dernières législatives, et qui rejoint le Front National. Est-ce qu'il faut faire un parallèle entre ce climat Hénin-Beaumont, on rappelle aux auditeurs, et le bourg que s'est choisi Marine Le Pen pour s'implanter dans le Nord ?
Alors, votre question appelle une première réflexion, d'abord. Première réflexion. Cette première réflexion, c'est que faut tout de même se louer du fait que aujourd'hui la magistrature est indépendante, c'est-à-dire qu'elle poursuit également des gens qui ont commis des infractions à droite, à gauche, des ministres, des anciens ministres ou autres. Imaginez une minute ce qui aurait été il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, lorsque la magistrature était réduite. Non pas au silence, parce que c'est difficile à cause de la Constitution de la République, mais au silence à cause de la suppression des crédits, à cause de la volonté de suppression des juges d'instruction, hein, les empêcheurs de grenouiller en rond. Je ne dis pas ça parce qu'on est à Radio Grenouille, hein, vous avez bien compris. Donc, aujourd'hui, bon, ben, vous avez des gens qui, s'ils ont commis des infractions, seront condamnés. S'ils n'ont pas connu d'infractions, seront relaxés. Il faut que la justice passe, c'est tout. Alors, que certains veuillent invoquer ces faits pour en faire des principes politiques à droite ou à gauche, bon, c'est leur jeu, mais c'est un jeu.
Hein ? Pour ce qui est de l'anecdote de la candidate Front de Gauche qui va... anecdote, est-ce que c'est une anecdote d'ailleurs ? Front de Gauche qui va au Front National, quelle est votre réaction ? Ce qui pose la question peut-être aussi du Front de Gauche. Votre modèle en politique est resté dans les mémoires pour quelqu'un qui se méfiait plutôt du Parti communiste ?
Oui, c'est...
Qui se positionnait au centre-gauche ? Est-ce que c'est votre cas ?
Alors, vous me posez là deux questions. Vous me posez une question sur cette personne qui est passée du Front de Gauche au Front National. Bon, on la retrouvera peut-être dans 5 ans ailleurs. Ça, c'est possible. Hein. Lorsque vous avez des gens qui nous voient, vous ne pouvez pas savoir ce que sera leur chemin dans les temps à venir. Ça, c'est une première réflexion. Une deuxième réflexion, c'est celle qui m'interroge sur ce qui était la ligne, on va dire ça comme ça, de celui qui fut mon maître, en l'espèce Félix Ciccolini, qui fut maire d'Aix-en-Provence et sénateur et vice-président de la commission des lois au Sénat. C'est la social-démocratie, c'est le socialisme adapté aux réalités. Voilà, je le résumerai comme ça.
Mmh. Plus largement, pour reprendre la question de Michel Guéroux, la probité en politique, celle qui fait qu'aujourd'hui, une élue qui s'engage sur des valeurs humanistes au départ se retrouve avec les extrêmes, en même temps cette acte république irréprochable évoqué par le président François Hollande, où l'on découvre l'affaire Cahuzac. Tout ça, c'est, ça aide, et plus proche de nous d'ailleurs, le département des Bouches-du-Rhône, avec l'affaire Jean-Noël Guérini, dont on parlera tout à l'heure. Tout ça, ça évoque quoi pour vous? Un ras-le-bol citoyen, et peut-être même un début d'exode vers les extrêmes?
Alors, je ne sais pas pourquoi il y aurait un exode vers les extrêmes. Par contre, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, après avoir eu un certain nombre d'années vécues dans les choses de la politique, puis un certain nombre d'années vécues dans les choses du métier, je faisais partie des meubles à Aix-en-Provence, on va dire ça comme ça. Et les gens, pendant des années, les citoyens, à chaque élection qui se présentait, me disaient « Oh, il faut faire quelque chose ». Mais moi, je travaillais, j'étais deux jours, trois jours par semaine à l'étranger, je ne pouvais pas. Bon. L'année dernière, j'ai pris le temps de faire campagne et j'ai fait campagne. Et le candidat que je soutenais, les candidats que je soutenais, à savoir M. Ciotte et Mme Ciccolini, fille de mon maître, ont été élus. Et comment? C'est la première fois depuis 1945 que sur une élection générale, un socialiste est majoritaire sur la commune d'Aix.
Oui.
Ça, il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut l'intégrer.
Socialiste qui aujourd'hui est mis en examen. Hein.
Ça, c'est une question judiciaire. Mais
oui, on en reviendra, c'est plus qu'une question judiciaire, puisqu'on parle là actuellement de probité. Hein.
Mais je pense que la présence de Mme Ciccolini a beaucoup joué dans le fait que sur la ville d'Aix, le score a été ce qu'il a été. Bon. Et moi, parce que j'ai été, j'allais dire, élevé, formé comme ça, j'ai dit oui l'année dernière aux citoyens d'Aix qui venaient me tirer par la manche, et je leur ai dit ça va, la prochaine fois on ira, mais deux conditions, deux. La première, c'est l'équité, et l'équité, ça, l'équité. Et la première, c'est la probité en politique, et la probité en politique, l'éthique, ça se décline de deux manières. D'abord à titre individuel, hein, on ne mélange pas son porte-monnaie et les affaires publiques. La deuxième, c'est ça se décline au niveau public, quelle est la position qu'on a vis-à-vis des citoyens et comment on la respecte. Voilà. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est après être, c'est faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais la ville d'Aix, depuis 35 ans, vit sur une économie de rente. Mais elle est en train de s'essouffler. Et donc, il faut remettre en œuvre ce qu'on appelle une dynamique de ville. Et là, c'était la deuxième des conditions. Alors, vous voulez que j'y aille, j'y vais. Et voilà comment je serai, et voilà ce que je ferai.
Bon, alors on est à la grande chatte, ici voilà. On parle assez directement, c'est leur avis. Jean-David Ciotte, donc vous l'avez soutenu, et aujourd'hui il est mis en examen pour recel de détournement de fonds publics. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut se mettre en retrait? Ou tant qu'on n'est pas condamné, il est légitime de garder son mandat? La question se pose de façon très, très, très aiguë dans ce département. On a aussi l'affaire Sylvie Andrieux qui vient d'être condamnée, elle, à 3 ans de prison, dont 1 ferme, 5 ans d'inéligibilité, 100 000 euros d'amende pour détournement de fonds publics.
Et qui n'a pas démissionné de son poste de député.
Et qui fait appel.
Oui, on a eu aussi, je peux vous le rappeler, le maire de Foss qui avait été condamné, qui a fait appel, et la peine a été doublée.
Oui, et on a aussi Jean-Noël Guérini, donc mis en examen.
Oui.
Aussi Jean-Noël Guérini mis en examen, et on en aura d'autres probablement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la justice est indépendante. Ne demandez pas à un avocat de commenter les mesures prises en matière judiciaire. Bien. Ça, c'est une chose. Donc, les décisions interviennent. Une décision qui est intervenue concernant Mme Andrieux. Mme Andrieux a fait appel. Je vous disais tout à l'heure que le maire de Foss avait fait appel. Je pense aussi qu'il s'était pourvu en cassation. On doit être probablement au bout de la procédure actuellement.
Ah, actuellement, il a un bracelet électronique, oui.
Bon. Donc, hein, la justice, c'est la justice. À partir de là, moi je pense... Mais
enfin, en disant ça, M. Baldo, disant ça, vous n'enlevez pas la réaction première des citoyens, c'est tous pourris. C'est quand on voit des élus autant au niveau national, je le disais, l'affaire Cahuzac, bien entendu, mais comme au niveau local, droite comme gauche, toutes ces affaires-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, le gouvernement a repoussé la limitation des mandats. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour redonner confiance aux citoyens?
Alors, moi, je peux vous dire à titre individuel. Voilà. À titre individuel, je suis opposé au cumul des mandats. Ça, c'est la première chose. Au cumul du nombre de mandats et je suis opposé au cumul des années de mandats.
Vous regrettez que François Hollande ait repoussé à 2017 la
Je regrette profondément que le cumul des mandats n'ait pas été imposé dès la première année. Alors j'entends bien que depuis un certain nombre d'années, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, à l'époque, moi, j'ai arrêté, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles, aujourd'hui, je lève le doigt, depuis un certain nombre d'années, les affaires publiques sont devenues la propriété privée d'un certain nombre de professionnels. Pas normal. Pas normal. Il arrive un moment où ces professionnels sont coupés de la population, et ils sont dans l'incapacité absolue de savoir ce qui se passe au niveau des citoyens. Bon. À partir du moment où on aura réduit le nombre de mandats à 1, le citoyen élu par ses pairs.
Donc il faudrait un statut de l'élu,
son
c'est ça ?
Il faudrait un statut de l'élu dans lequel il soit dit bien clairement que l'élu remplira un mandat peut-être deux fois, mais un seul.
On arrive finalement au bout de cette République. Certains, comme le Front de Gauche et d'autres, réclament une sixième République avec de nouvelles cartes, de nouvelles réformes, celles que vous venez de citer. Oui. Vous êtes pour, vous, cette sixième République ?
Alors, le Front de Gauche, parce qu'il faut que le Front de Gauche ait un titre à un moment donné dans sa propagande. Il dit sixième République, ok. Mais l'important, c'est quoi pour moi ? C'est de constater qu'on est arrivé au bout d'un cycle. On est au bout d'un cycle. Voilà. On a connu le cycle des élus qui étaient des notables. Ensuite, on a connu le cycle, et on arrive au bout, des élus qui étaient des hauts fonctionnaires. Et on est au bout d'un cycle que je résumais tout à l'heure en indiquant que la politique est entre les mains de professionnels. C'est fini. Voilà.
Michel. Alors là, vous avez exposé des mesures finalement préventives pour éviter les dérives. Mais alors quand le problème est là, je suis plus précis. Sylvie Andrieux condamnée. Je vous demande pas de commenter effectivement une décision de justice, mais maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire en tant que vous êtes un homme politique, elle aussi, vous êtes dans la même sphère départementale, régionale. Certains disent elle devrait renoncer à siéger à l'Assemblée nationale. Si elle veut organiser sa défense, est-ce que vous êtes sur ces positions-là ? Ou alors, tant qu'il y a une possibilité d'appel, après tout, ben voilà, non, elle a été élue, donc il est légitime qu'elle continue à siéger.
Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est mon avis à titre individuel.
C'est celui-ci voilà. Qu'on demande, d'ailleurs.
Voilà. Hein. À titre individuel, je pense, après chacun fait ce qu'il veut, pour l'instant, mais je pense que un élu, c'est un homme, une femme, qui est investi de la confiance des citoyens. À partir du moment où cet élu se voit recherché dans un domaine qui est celui de son mandat, c'est évident que s'il se dispute avec son voisin, c'est une chose. Bon, mais ce qui est celui de son mandat, inévitablement, il va mettre en péril cette confiance des citoyens vis-à-vis de l'élu. Et donc, à titre personnel, je pense que l'élu qui se trouve confronté à ce type de questions doit rendre à son parti son mandat en disant « voilà, je vous rends mon mandat, je me fais juger, puis après on verra ».
Donc
voilà.
C'est mon avis personnel. Vous estimez que Sylvie Andrieux, dans un autre registre, Jean-David Ciotte, doivent rendre leur mandat ?
Après, Sylvie Andrieux, Jean-David Ciotte, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais moi, à titre, je vous ai dit deux fois, à titre individuel...
Mais en tant que camarade du Parti Socialiste, vous pensez qu'ils doivent rendre leur mandat ?
Vous me posez une question en tant que camarade du Parti Socialiste, je vous ai dit à titre individuel, parce qu'actuellement, légalement, il y a deux choses. Il y a la position personnelle, vous avez entendu la mienne, et puis vous avez la position légale, et vous la connaissez comme moi.
En même temps, vous êtes candidat à la primaire socialiste à Aix, Jean-David Ciotte, et le député, un des députés d'Aix, votre position personnelle a forcément un impact politique sur les équilibres.
Donc vous dites Jean-David Ciotte doit démissionner.
Je dis Jean-David Ciotte fait ce qu'il veut. Je dis aussi, mais il faudrait, c'est un peu plus compliqué que ça, il faudrait faire une analyse de la politique judiciaire qui est menée dans ce département par la magistrature et qui est menée de façon remarquable et qui couvre toute une série d'actes sur lesquels la magistrature recherche si des infractions ont été commises ou pas. Bon. Et inévitablement, sur cette série d'actes, il y a des mesures qui sont prises, ce qui s'appelle la mise en examen.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez un socialiste, un social-démocrate qui mettait en adéquation une certaine un certain pragmatisme avec le socialisme. Le fait que Sylvie Andrieux, par exemple, dise aujourd'hui, si jamais je laisse mon mandat ou si jamais je m'enlève de la mairie du 13-14, c'est le Front National qui va prendre ce mandat et cette mairie. Donc vous vous dites, moi je suis socialiste, je suis pragmatique, il vaut mieux une élue de gauche condamnée ou en tout cas fortement suspectée par la justice que le Front National ?
Moi, je ne connais pas particulièrement la circonscription de Mme Andrieux.
Je viens de vous la résumer.
Oui, oui. Mais Mme Andrieux indique cela. Moi, je pense que si Mme Andrieux avait quitté ses fonctions au tout début des problèmes qu'elle a connus, eh bien, les citoyens se seraient prononcés. Et puis les citoyens, ils se prononcent en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et ces éléments aujourd'hui ne disent pas que le député qui aurait suivi Mme Andrieux serait un député du Front National.
Ouais. Je cite du Baldo, si vous permettez. Il faudra mettre fin au clientélisme qui gangrène la vie politique locale, fait le lit des extrémismes. C'était avant la condamnation de Sylvie Andrieux. Je ne sais pas si vous pensiez à quelqu'un de précis.
Non, mais le local, pour moi, c'est le local.
Donc voilà, on vous titille sur ces questions-là parce que c'est votre discours, c'est ce que oui. Vous avez mis en avant lors de votre campagne qui a démarré très tôt. Je vous cite encore, en finir avec le népotisme, le clanisme, les passe-droits et toutes les pratiques néfastes à un fonctionnement sain de la démocratie. Alors vous ne pensez pas forcément au seul parti socialiste, effectivement sur Aix.
Je vais vous dire, je pense effectivement pas seulement au seul parti socialiste, mais il est évident qu'à Aix, par exemple, puisqu'on parle d'Aix, la presse s'est fait l'écho d'un certain nombre de choses qui étaient absolument choquantes, des passe-droits au bénéfice de X, Y et Z, qui étaient des proches des édiles actuels. Voilà. Vous savez aussi comme moi que le Conseil d'État a pris une position il n'y a pas si longtemps que ça, et a renvoyé devant la Cour d'appel administrative de Marseille sur un problème qui concernait un contrat de travail consenti par le maire d'Aix-en-Provence à M. Alain Joissin, ancien maire d'Aix-en-Provence, il y a quelques années.
Et époux, ancien époux de Marie Joissin.
Pas ancien, actuel.
Ah d'accord, actuel époux de Marie Joissin. Je n'ai pas suivi la vie privée de Marie Joissin, mais oui, oui. Je rectifie.
Tout à fait. Le procès de divorce n'a pas été prononcé.
Non, non.
D'accord. Donc, on vous reproche des fois, ou alors on apprécie inversement votre style, c'est-à-dire que vous n'aimez pas les attaques frontales. Dans l'opposition aixoise, on parle de... Est-ce que vous iriez à utiliser les mots qu'on entend parfois, à savoir le clan Joissin, des termes comme ça qui désignent effectivement une famille, le père, la mère, la fille, le chauffeur?
Oui, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part la pré-campagne des primaires. De la primaire, pardon. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il y aura la campagne électorale. Dans le cadre de la pré-campagne des primaires, moi, je pense extrêmement important de, peut-être aussi parce que c'est mon tempérament, de montrer aux Aixois que nous réfléchissons de façon sérieuse aux questions qui les concernent au premier chef. Les questions qui les concernent au premier chef, c'est le logement, c'est la circulation, c'est le problème immédiat, quoi. Bon. Ensuite, dans le cadre de la campagne électorale, ce sera autre chose. Hein, dans le cadre d'une campagne électorale, on attaque, et on attaque sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et la manière dont ça a été fait ou pas fait. Voilà. À ce moment-là, on verra. Mais pour l'instant...
Vous voulez dire qu'il va y avoir deux baldos, qu'il y a déjà, d'ores et déjà, deux baldos. Un pour la primaire qui est en mode opposition courtoise, ou en tout cas attaque courtoise, et un pour les municipales face à Joissin, qui sera beaucoup plus vindicatif si vous êtes choisi par la primaire. Hein.
Vindicatif, c'est peut-être pas le mot, mais combatif, c'est le mot. Voilà. Et on n'a pas besoin d'employer des vocables grossiers pour être combatif. On peut se fixer sur des dossiers, sur des problèmes et sur la façon dont ces problèmes n'ont pas été résolus.
Michel ?
Alors, avant d'arriver sur les dossiers aixois, la primaire, c'est quand même un dispositif nouveau. Oui. Il y a eu la primaire à la présidentielle, oui, qui a fonctionné, qui a séduit jusqu'à dans les rangs de l'UMP. C'était pas gagné au départ. Et puis, il y a une primaire municipale avec finalement une situation exceptionnelle à l'échelle de la France, puisqu'il n'y a que trois villes en France, Le Havre, Marseille, Aix, qui pour l'instant vont utiliser ce processus pour désigner leurs candidats. Alors, Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une chance pour Aix? Et pourquoi qu'à Aix et à Marseille et pas ailleurs?
Moi, je suis, pour avoir bien connu les mécanismes internes au Parti Socialiste, ici, dans les Bouches-du-Rhône, dès que le principe des primaires a commencé à monter, j'ai été un partisan acharné de la primaire. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez l'espèce de défiance des citoyens vis-à-vis des partis politiques. Vous avez raison. Hein ? Et vous entendez les citoyens vous dire « Ouais, ils font comme ils veulent. Ils nous envoient qui ils veulent. » Et à Aix, on nous a envoyé, ouvrez les guillemets, qui ils veulent, fermez les guillemets, pendant un certain nombre d'années. Bon. La primaire, c'est la parole donnée aux citoyens. Et à partir du moment où le 20 octobre prochain, les citoyens à Aix-en-Provence auront dit « On a choisi un tel, on a choisi Baldo, un autre. » Bon, eh bien, les citoyens auront choisi celui qui va mener une équipe au municipal en fonction des réflexions qu'il aura menées auparavant.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous Édouard Baldo, on parle des primaires à Aix-en-Provence. Justement, Monsieur Baldo, pour Alain Fontanelle et Christophe Borgel, les deux proconsuls de Solferino, entre guillemets, chargés par Solferino de la gestion de la Fédération des Bouches-du-Rhône et de l'organisation des primaires à Marseille, le MoDem est dans l'opposition et non dans la majorité. Est-ce que vous partagez cet avis pour les primaires ?
Alors j'ai interrogé, moi, les deux Parisiens dont vous me parlez, et ils nous ont indiqué, quand nous étions en groupe il y a quelques jours de cela, que effectivement le MoDem ne participerait pas à la primaire. Ils nous ont indiqué aussi que les organisations qui seraient consultées pour l'organisation de la primaire seraient des organisations faisant partie de la majorité ou proche de la majorité. Voilà. Et dans ces conditions, le MoDem de M. Bayrou, n'étant pas partie prenante à la majorité, n'est pas partie prenante à la primaire d'Aix et à celle de Marseille.
Vous le regrettez parce que, par exemple, un autre candidat potentiel, il ne s'est pas encore déclaré, mais en tout cas, il a été candidat par le passé, c'est Alexandre Medvedovski, lui, regrette que les primaires ne se limitent qu'aux socialistes en excluant le MoDem.
Alors, Alexandre Medvedovski est un élu municipal de la minorité et il appartient au Parti Socialiste. Il est conseiller général du canton de Pérols et il a regretté effectivement que la primaire d'Aix et de Marseille ne soit pas plus large. Bon, c'est son choix, mais c'est son opinion. Moi, j'aurais aimé qu'elle soit la plus large possible. Bon, pourquoi ? Pour une raison bien simple, c'est qu'à partir du moment où elle est la plus large possible et où tout le monde a signé le même pacte, les candidats non choisis se soutiennent à la fin de la primaire le candidat qui aura été choisi. Et ça évite la dispersion de voix, bien évidemment.
Donc vous auriez bien vu un ticket, vous aussi, avec François-Xavier, de Peretti, chef de file du collectif Ensemble avec vous.
Hein. Le ticket, c'est une autre question. Un ticket, c'est à partir des élections. Mais il est évident que s'il y avait eu d'autres candidats et qu'ils ne soient pas désignés le 20 octobre prochain, ces candidats auraient été dans l'obligation de rejoindre celui qui a été désigné, point.
C'est possible d'ailleurs, parce qu'après les primaires, le candidat qui sera désigné peut lui ouvrir...
Parfaitement.
C'est une des potentialités.
Parfaitement.
Alors le mois dernier, à votre place, dans ce studio, il y avait Michel Peset, il parlait aussi des primaires, il disait, comme d'autres, il témoignait de son inquiétude sur le bon déroulement à Marseille, mais aussi à Aix, de ces primaires, au motif que la question de la transparence de leur organisation n'était pas forcément garantie compte tenu de l'État, de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, effectivement aujourd'hui sous tutelle. Mais voilà, est-ce que la tutelle va suffire pour assurer un bon fonctionnement de ces primaires? Et d'autres disent, je pense à Cécile, elle aussi, à Avignon, qui a failli se lancer dans le dispositif, qui était dans ce studio, et qui nous disait... attention, ce qui a marché au niveau national avec un corps électoral très large pourrait s'avérer être un piège au niveau local. car au niveau local, les baronnies, le clientélisme pèse lourd et on risque d'avoir des effets fort peu démocratiques dans les urnes.
Alors, la première question, c'était celle, c'était l'opinion de mon vieil ami Michel Pesé. Michel avait raison il y a un mois. Aujourd'hui, je pense qu'il changerait d'avis parce que la structure de la primaire a été montée et parce que, tout à l'heure, en vous quittant, j'irai chercher le dossier de la primaire à la Fédération des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc, le principe est monté. Le principe des bureaux de vote a été acquis.
Ce dossier équivaut à une garantie papale quasiment. Il n'y aura pas d'intervention d'influence autre. Pour être très clair, le Conseil général n'interviendra pas. Jean-Noël Guérini n'interviendra pas de son influence sur les primaires à Aix-en-Provence.
S'il intervient sur les primaires à Aix-en-Provence, je pense que ça desservira celui au bénéfice duquel il pense intervenir. Voilà, bien clairement.
Donc, vous êtes serein, vous pensez que tout ça va bien fonctionner?
Je pense qu'à Aix-en-Provence, en tout cas, les choses se présentent bien. Mmh. Voilà. Alors, la deuxième question qui a été posée, c'est...
Le corps électoral et la fragilité, les divisions aussi qui peuvent apparaître et qui peuvent laisser des traces ensuite dans le scrutin.
Le corps électoral d'abord. Le corps électoral à Aix-en-Provence, au moment de la primaire présidentielle, nous avons eu de mémoire, je me trompe peut-être à quelques centaines de voix, mais 7800 votants. Bon, ce qui était... presque 10% du corps électoral. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que l'engouement de la population pour cette affaire de primaire est palpable. Ce matin encore, j'ai reçu des coups de téléphone de personnes me disant « Alors, on a appris que pour les primaires, il faut des parrainages. Moi, je veux parrainer. » Bon. Très bien. On entend... Vous savez, les élections municipales, c'est quelque chose de passionnant parce que c'est proche. On sait. Aix-en-Provence, c'est une grande petite ville ou une petite grande ville dans laquelle tout le monde se connaît. On sait qui a fait quoi, comment, etc. Et les citoyens, et c'est passionnant, les citoyens sont absolument concernés, un, par la primaire, ils ont intégré la notion de primaire, donc le vote au mois d'octobre prochain, puis... la municipale de l'année d'après. Voilà.
Édouard Baldo, votre déficit entre guillemets de notoriété, ça va être un atout dans la mesure où vous arrivez en tant que monsieur propre, ou ça va être vraiment un handicap parce que face à vous, il y aura pour l'instant personne n'est clairement déclaré, mais il y aura des gens qui sont...
Cyril Déméo et Jacques Agopian quand même.
Les gars et l'enfant, tout ça ne sont pas encore déclarés. Est-ce que ça va être un atout ou un inconvénient?
Alors, vous avez dit déficit de notoriété. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une petite grande ville. Moi, j'ai été avocat dans cette ville pendant 38 ans.
Tout le monde n'est pas avocat à Aix-en-Provence, même s'ils sont nombreux quand même.
Voilà. Et c'est vrai que pendant 20 et quelques années, j'ai été partie prenante à la vie politique de la ville. Et aujourd'hui, lorsqu'on est invité dans des associations, dans des quartiers, par des associations de locataires, etc., il y a toujours un citoyen pour me dire « Mais vous souvenez, on était à tel endroit, à tel moment. » Et donc, vous avez des affinités et des liens qui sont dans des villes comme celles, qui existent dans les villes comme celles-là. Si bien que évoquer une notion de déficit de notoriété, c'est, je pense, un réflexe médiatique. C'est pas un réflexe citoyen, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
D'accord.
La proximité, c'est autre chose.
Ces primaires, vous allez voir face à vous d'autres candidates et candidats socialistes. Vous allez développer une thématique qui restera la même que celle face à Madame Joissin, ou est-ce que vous allez développer d'autres sujets?
Alors, bien clairement, vous savez, pour moi, la vie politique, c'est pas compliqué du tout. Pas compliqué du tout.
Certains pourraient vous qualifier de naïf.
Mais non, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que, d'abord, on a une base de réflexion, de valeur. Et en fonction de cette base de valeur, on regarde la collectivité à laquelle on s'adresse, que ce soit l'État, le département, la nation, la ville. On imagine l'avenir et la façon dont cette collectivité va se dessiner. Ensuite, on regarde les problèmes concrets et on dit « voilà comment je veux les régler ».
Ça, c'est le kit classique maintenant. Il y a les aspérités de terrain.
Ça, c'est la politique. C'est pour ça que je dis que, pour moi, c'est extrêmement simple. Donc, lorsque j'ai dit oui l'année dernière, la première chose a été une réflexion de base sur les problèmes qui se posent aujourd'hui. Et cette réflexion, elle est technique, elle a été menée avec des ingénieurs, avec des architectes, avec des urbanistes, avec des sociologues, avec des politiques. Et on est arrivé à définir les principaux chantiers. Voilà. Donc, ces chantiers, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, et ils sont ce qu'ils sont, et ils seront les mêmes à partir d'une élection municipale. Voilà.
Michel ?
Alors, on va arriver sur vos propositions, mais je m'arrête encore une dernière fois avant d'y arriver sur le débat interne au Parti Socialiste, qui est très, très, très prégnant dans le département. Vous êtes un des adhérents du Renouveau PS13, qui est un groupe qui pose des questions avec beaucoup de virulence, hein, on va dire. J'ai un communiqué du 22 mai, donc tout récent de ce Renouveau PS13, et qui dit « Le Parti Socialiste détourne le regard et bat en retraite, et diligente une tutelle évanescente, dont le premier objectif semble avant tout de s'assurer que rien ne soit dit de sa compromission avec le système en place. Jean-Noël Guérini est toujours président du CG, toujours membre du PS, pire, depuis son fief, il manigance, orchestre le découpage électoral, distribue les emplois d'avenir. Plus que jamais, le système clientéliste perdure. » Encore une fois, comment concilier un pareil constat et l'espoir en ces primaires qui arrivent très bientôt au mois d'octobre? Est-ce que vous partagez déjà cette déclaration?
D'abord, le Renouveau PS13 n'est pas une association, c'est pas un groupement, on n'adhère pas. Mais c'est une pensée globale, on va dire ça comme ça. Et c'est une suite de constats qui ont été faits, et c'est vrai que au mois de juillet l'année dernière, le Renouveau PS13 a fait son rassemblement à Aix-en-Provence, et que moi j'en étais. Voilà. Ensuite, un certain nombre d'expressions sont adressées au public, notamment celles que vous venez de celle à laquelle vous venez de faire
c'est
référence.
C'est un communiqué aux journalistes. Hein, beaucoup
bien.
De monde reçoit ça.
Mais bon, moi je n'étais pas l'auteur de ce communiqué, bien évidemment. Bon. Mais c'est vrai que dans la réflexion globale, il y a une volonté et une nécessité d'assainir le système. Voilà. Ça c'est clair.
Mais encore, parce que bon, là vous êtes un peu depuis tout à l'heure dans l'incantatoire. Concrètement, essayez de nous donner un peu plus votre position. Est-ce que vous dites le Conseil général n'est absolument pas légitime? Est-ce que vous condamnez plus ou moins fermement? Vous allez arriver à une primaire où des gens ont, comme vous, des kits aussi pour la politique, etc., mais aussi des prises de position beaucoup plus fermes.
Sur ce qui aurait dû se faire au niveau du Conseil général, moi je vous ai dit mon sentiment personnel. Je pense qu'à partir du moment où un homme politique fait l'objet de mise en examen, c'est une conception qui est personnelle. Il doit remettre son mandat au parti. Et je pense aussi que si l'actuel président du Conseil général avait fait cela, il y aurait certainement eu beaucoup moins de problèmes dans les Bouches-du-Rhône depuis 2 ans ou 3 ans.
Enfin, depuis que vous dites, par exemple, existe. Si moi je suis candidat, si je suis choisi comme candidat, le clientélisme, le népotisme, tout ça, c'est terminé.
Tout ça, c'est terminé.
Vous travailleriez avec un élu qui est mis en examen ou qui aurait des soucis avec la justice?
Je ne m'embarquerai pas avec des gens véreux ou douteux.
D'accord.
Clair.
Même pas dans votre liste pour les municipales?
Surtout pas dans la liste municipale.
Donc voilà. Vous dites à M. Medvedovski qui aurait des soucis avec la justice ou qui en a eu, vous dites pas de ticket entre nous.
M. Medvedovski, à ma connaissance, n'a pas de soucis avec la justice.
D'accord. Mais s'il en avait demain, vous lui dites non.
Ouais. Si d'autres en ont demain, je pense qu'ils éviteront de se mêler aux élections municipales.
Michel?
Alors, les fameuses 5 priorités. Vous êtes parti sur du très, très, très concret. Je les cite rapidement. Gratuité, 1. Première priorité, gratuité sur le réseau des bus. 2. Piétonnisation effective du centre-ville. 3. Fin de l'urbanisation anarchique du territoire. 4. La création de places de crèches. 5. Le soutien à l'économie locale, par exemple avec le développement du tourisme d'affaires et de congrès. Pourquoi donner un caractère comme ça très, extrêmement très concret? La gratuité sur le réseau des bus. C'est vraiment la mesure qui va débloquer le X et son pays. C'est vraiment ce qu'il faut mettre en haut de la liste.
Je vais vous dire. Les chantiers auxquels on a donné priorité sont des chantiers qu'il est nécessaire de mener le plus rapidement possible à cause du constat que l'on fait aujourd'hui. Je vais vous donner un chiffre. C'est pas moi, c'est l'INSEE qui vous le donne. Dans les 5 dernières années, 13 000 jeunes adultes ont quitté la ville d'Aix. Faute, 1, de logement à leur portée, 2, de place pour leurs enfants dans les crèches. Et ces gens travaillent à Aix, ils ont été formés à Aix, ils travaillent à Aix, ils habitent dans toutes les communes qui sont alentour, jusqu'à 30, 40, 50 kilomètres, Riance, vous voyez. Et tous les matins, ils prennent leur voiture pour venir travailler à Aix. Ça fait 13 000 voitures qui arrivent le matin, 13 000 voitures qui partent le soir. Bon, donc, ils se posent un problème de logement, ils se posent un problème de circulation, bien clairement. Lorsque les gens habitent évidemment loin, ils ont loin de leur lieu de travail, a priori c'est pas les plus riches, ils ont ce qu'on appelle vulgairement une double peine. Hein. D'abord ils habitent le plus loin possible, ensuite ils payent le plus cher pour les déplacements en transport en commun. Donc inévitablement, il faut que les transports en commun connaissent une modification, et cette modification, c'est la gratuité des transports en commun. Cette gratuité, d'ailleurs, elle existe dans 20 villes en France, pas loin d'ici, à Aubagne.
C'est compatible, au moment où on parle de la grande métropole, où le mot, c'est homogénéiser l'ensemble des services, de mettre deux villes qui sont gratuites et le reste est payant ?
Je pense que lorsque la métropole va être mise en place, on ne sait pas comment elle va être mise en place aujourd'hui. Hein. On avait un projet de loi de 188 pages il y a 4 mois. Aujourd'hui, il est beaucoup plus restreint. On ne sait encore pas comment les choses vont se faire. Mais inévitablement, la métropole va s'occuper des questions qui concernent la totalité des communes et qui sont intercommunales. Et les communes vont être repliées sur la vie communale. Et donc, moi, je pense que inévitablement, il faudra prendre des mesures internes aux communes en ce qui concerne les problèmes de la commune. Voilà. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il n'y aura aucune difficulté à avoir un système de transport à l'intérieur de la commune qui sera gratuit, et les transports intercommunaux, eux, qui seront coordonnés, bien évidemment, de façon différente, pourront être payants. Ça, ce sera la question de cette globalité de décision qu'on appelle la métropole pour l'instant.
Alors la gratuité des transports, ça fait débattre, hein, et parfois ça fait fort débattre. À Aubagne, il y a l'UPE13 qui est le MEDEF départemental, hein, qui en veut beaucoup à donc cette agglomération pour avoir fait ce choix, parce que ce sont les entreprises, en tout cas à Aubagne, c'est le montage qui a été fait, qui cotisent pour payer cette gratuité. Et par exemple ici aussi, dans ce studio, Karim Zeribi, patron de la RTM, nous explique, quand le Ravi l'interroge, que c'est une idée fantaisiste et que à partir d'un certain nombre d'habitants, peut-être que Aix ne rentrera pas dans celle-là, on peut pas sérieusement aller sur ce type de mesure, et puis qu'il est bon que les gens payent parce que ça leur fait comprendre que ça a un coût et donc respecter peut-être aussi le matériel, etc.
Les conservateurs sont toujours comme ça. Vous savez, je paye donc je suis.
Voilà. Karim Zeribi est un conservateur donc.
En l'espèce, moi, je j'ai rien ni pour ni contre Karim Zeribi, mais c'est une mentalité. Je paye, donc je suis. Le même principe pour la culture. La culture de cathédrale est développée comme ça. Je paye, donc j'y vais. Bon, eh bien, moi, je suis un socialiste. Les transports en commun sont un service public, et le service public doit appartenir aux citoyens. Et ce d'autant plus que, et là vous me posez une question chiffrée, la collectivité publique, lorsqu'elle paye le transport public, elle a une enveloppe financière. Bon. Dans cette enveloppe financière, lorsque les transports publics sont, je parle des transports en autobus, hein, lorsqu'ils sont très fréquentés, le gain représenté par l'encaissement des tickets, ça représente 8-10%. Bon. À Aix-en-Provence, où vous n'avez jamais plus de 10 personnes dans un autobus de 12 mètres de long, le montant de l'encaissement, Ça doit faire 5-6% actuellement. Bon, ça c'est une chose. Lorsque une société d'autobus, je prends l'exemple de Veolia à Aubagne, tiens, parce que j'ai étudié de très près le système d'Aubagne, qui n'est pas si mal que ça.
Aubagne qui est dirigé par un communiste.
Aubagne qui est dirigé par un communiste. Lorsque on regarde le système d'Aubagne, Veolia, qui a la délégation de services publics, avait dit, alors, on a commencé à faire la moue, puis ensuite ils ont fait leurs additions, leurs soustractions, puis ils se sont dit, si on supprime les caisses, les caisses, toute la mécanique des caisses. Si on supprime ou qu'on affecte ailleurs les surveillants, dans les contrôleurs, bah, quelque part on fait des économies. Et quand ils ont affiné les calculs, ils se sont aperçus qu'à partir du moment où on augmentait le nombre de passagers dans les transports en commun, eux arrivaient à s'y retrouver. Et il faut bien reconnaître qu'à Aubagne, en 3 ans, le nombre de passagers a triplé.
Michel ?
D'accord. Vos trois premières priorités, en fait, en creux, semblent dire qu'en matière d'urbanisme, c'est la cata, ce sous-rex. Enfin, c'est une critique en creux du bilan des années écoulées. C'est si grave que ça. Enfin, Aix, on parle parfois de la belle endormie, mais a vraiment loupé le coup en matière d'urbanisme.
Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la fin d'un cycle. Et sur ces questions-là, la démonstration est maintenant apportée. J'ai organisé il y a une dizaine de jours un débat sur le logement à Aix. Les deux interlocuteurs que j'avais étaient le président de la FNAIM, hein, pas des gauchistes, d'accord, d'un côté, et un architecte, ancien président de l'ordre, de l'autre côté. Les deux se rejoignaient pour dire que le marché de l'immobilier à Aix-en-Provence était au bord de s'effondrer parce que l'offre n'y était plus. L'offre qui existe dans ma ville, c'est une offre d'immeubles extrêmement chers. Et le résultat pratique, c'est que les gens qui ne peuvent pas payer s'en vont et augmentent les problèmes de transport et de déplacement. Voilà. Donc, oui, si vous résumez les choses comme ça, c'est la cata.
Alors attention, je préviens les auditeurs, mais ce que je vais dire est assez effrayant. La ville est en danger. Hein. C'est pas moi qui l'affirme, c'est Bruno Genzana qui est spécialiste en déclaration apocalyptique. Et quand il parle de la ville est en danger, il parle en fait du projet de la grande métropole Aix-Marseille. Ce week-end encore, 109 maires du territoire sur les 119 que compte le département se sont réunis. Et cette fois-ci, c'est Georges Christiani qui conduisait ce rassemblement, dit « On veut nous priver de notre droit des sols et de nos finances ». Or, si j'ai bien suivi, vous êtes favorable à la métropole dans ce contexte-là et vous pensez avoir vos chances d'être élu maire d'Aix. Et on connaît le vieux contentieux qui oppose Aix et Marseille. Et vous dites « Oui, je suis le maire qu'il vous faut, oui, je suis pour une grande métropole ».
Ce serait là aussi la fin d'un cycle, pour compléter la question, celle des crispations géographiques
C'est la fin d'un cycle. Je vais vous donner quelques exemples quand même, parce que on n'est pas tout seul en Europe. Moi, j'ai passé les 20 dernières années de ma vie dans les capitales européennes et ailleurs. Alors, l'Espagne, 47 millions d'habitants, 8200 communes. L'Italie, 60 millions d'habitants, 8750 communes. L'Allemagne, 85 millions d'habitants, 13 000 communes. D'accord ? La France, 65 millions d'habitants, 36 000 communes. Ailleurs, c'est l'exemple allemand, dans les années 70, tout simplement, on a diminué le nombre de communes et fusionné les communes. Le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Bon. Et aujourd'hui, vous avez deux niveaux de territoire. Les régions, il y en a 16 de mémoire, et 13 000 communes. Chez nous, je ne vais pas vous répéter, les 101 départements, 21 régions, un nombre de communautés de communes de 6 ou 7 par département, 36 000 communes. Bon, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on est arrivé à un point de non-retour, et c'est la fin d'un cycle, parce que les gens de l'économie, et je suis un homme de l'économie, j'ai vécu l'économie toute ma vie, les gens de l'économie n'ont plus en France de décideurs qui décident. Ils ont des décideurs en face d'eux qui leur disent « Ah, c'est bien !» Oui, mais là, c'est pas moi, c'est la communauté de communes. Ou c'est pas moi, c'est le département. Ou c'est pas moi, c'est la région. Le résultat pratique, ben, on le voit dans notre département. Hein ? Alors, que...
Finalement, vous n'auriez pas été contre la réforme, ou vous êtes peut-être même pour la réforme qu'avait annoncé Nicolas Sarkozy de supprimer les départements et de limer un petit peu le portefeuille.
Le millefeuille, oui.
Et le portefeuille de certains.
Et aussi, au passage.
J'ai vu en lisant votre journal, d'ailleurs, que mon ami Michel Peset et moi étions sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Voilà. Donc, on a trop de collectivités publiques chez nous. Lorsque vous avez un projet économique, encore une fois, moi j'ai passé les 20 dernières années à faire ça, vous êtes obligé de préparer au minimum 4 dossiers. Un dossier pour la commune, un dossier pour la communauté de communes, un dossier pour le département et un dossier pour la région. Bon, c'est-à-dire que vous avez 4 fois des gens qui vont travailler dessus et vous allez perdre 4 fois plus de temps.
Et vous ne craignez pas, alors, comme ces opposants à la métropole, la naissance d'un grand machin administratif avec et un éloignement du pouvoir vis-à-vis de la proximité? C'est les arguments qui sont mis en avant.
Les Allemands, ils font comment? Les Italiens, ils font comment? Les Espagnols, ils font comment? Ils sont plus mauvais que nous?
Les Espagnols, oui, parce que c'est en grande partie à cause de ces régions qui sont surendettées.
C'est les régions. Débat. C'est les régions, c'est pas les communes.
Le fait d'être maire et de ne plus pouvoir jouir, comme disent les opposants, du PLU et des finances, ça vous gênerait pas?
Alors, d'abord, il y a les finances, c'est les finances. Donc, inévitablement, vous aurez des finances communales. Bon. Qu'une partie des finances soit affectée à des transports en commun, à des services publics communs et intercommunaux, ça existe déjà avec les communautés de communes.
Mais par exemple, les Aixois seraient d'accord pour financer un métro ou un autre tramway marseillais, vous pensez?
Pourquoi voulez-vous que les Aixois financent un tramway marseillais? Un tramway marseillais, c'est la commune de Marseille. S'il y avait un tramway entre Aix et Marseille, moi je suis sûr que les Aixois accepteraient de financer leur part du tramway.
Alors je vais citer Marie Joissin en substance, hein, excusez-moi. Les Aixois n'ont pas vocation à payer pour voler au secours des pauvres Marseillais. C'est pas leur vocation. Aix, obligé de payer les dettes et les RSA des Marseillais.
Mais alors les auditeurs n'ont pas l'image, ou vous faites un peu la moue quand même, hein?
Oui. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je ne vois pas pourquoi les Aixois pourquoi la commune d'Aix irait financer la commune de Marseille, bien clairement. Bon.
C'est un pot commun, hein. C'est ça le projet de la grande métropole, c'est faire un pot commun et donner là où le besoin s'en fait le plus ressentir.
Il y a quand même un territoire prospère d'un côté, et puis un territoire, on le sait, qui a un retard économique, social à rattraper, etc.
Le projet... L'actuel projet, moi je ne sais pas ce que sera la loi. Hein. On peut toujours épiloguer sur ce que sera l'avenir, moi j'en sais rien. Bon, la loi, elle sera ce qu'elle sera. Mais la loi va probablement instituer un système de financement des besoins intercommunaux et laisser un budget communal aux communes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous, on réfléchit, logement, piétonnisation. La piétonnisation de la vieille ville d'Aix, elle ne va pas être payée par Marseille. Hein. D'accord. Elle ne sera pas payée non plus par Aix, parce que c'est une série de mesures qui ne sont pas véritablement difficiles à supporter.
Aix ne doit pas avoir peur de Marseille. C'est un vieux fantasme,
C'est pas un vieux fantasme, c'est un moyen pour une équipe qui est au bout, à bout de force et à bout de cycle, d'essayer de se maintenir. Oui. Voilà.
Vous feriez en sorte, si vous étiez élu, si vous étiez d'abord le candidat, de faire des propositions pour que cette ville d'Aix-en-Provence ne soit plus une ville élitiste par le prix de l'immobilier, élitiste par les déclarations du maire, Madame Joissin, sur les Roms, les déclarations malheureuses qu'elle a eues sur les Roms, son rapprochement même avec la droite un petit peu extrême. Vous donneriez une autre image, peut-être un petit peu plus populaire à cette ville?
Dans cette ville... Nous avons, je dis nous, bon, j'y étais pas, de 1965 à 1978, construit la ZUP d'Ancagnan, la ZAC du Jas de Bouffan, la zone industrielle, la zone d'activité de la Pioline, tous les parkings extérieurs du Tour de Ville. D'accord ? Mais on a conservé, évidemment, l'université. Hein ? Madame Joissin n'a pas réussi. puisque le siège de l'université maintenant est à Marseille et que la ville d'Aix devait recevoir un service extraordinaire qui s'appelait le PRES, lequel PRES n'a jamais existé. Petit point de suspension. Bon. Donc, il est évident qu'on a réussi à faire de cette ville, tout en conservant l'esprit et le génie de la ville, avec une vie culturelle qui a été connue, qui était hors du commun, nous avons réussi à héberger les personnes qui n'étaient pas particulièrement fortunées et à avoir une vie sociale qui existait.
Donc on continue sur cet élan-là.
Exactement.
Et on referme la parenthèse, je vois ça.
Oui, on referme le cycle.
Michel, dernière question.
Jean Chereau, premier adjoint de Marie Joissin depuis le départ, et qui annonce qu'il va soutenir Bruno Genzana, que je citais tout à l'heure. C'est un fait commentaire. Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a un couloir de Mistral du côté d'Aix, tout le monde...
Je crois que c'est le premier couloir de Mistral, mais il y en aura d'autres, certainement. Mais il est évident que M. Chereau va devoir aussi partager le poids du passif actuel. Hein. Juste un chiffre. Pour arriver à faire tenir leur budget, ces gens ont vendu en 2011 17 immeubles appartenant à la commune, 27 immeubles en 2010, 16 immeubles en 2009, et je m'arrête. Voilà.
Dernière question, et on reste un petit peu dans le Mistral. Tout à l'heure, j'ai interrogé M. Medvedovski à votre sujet. Sa réponse a été « J'espère qu'il viendra s'agréger à notre rassemblement. » Est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce que vous souhaitez les rejoindre et arrêter votre candidature ?
Pour l'instant, moi j'en suis à la primaire qui aura lieu le 13 octobre et le 20 octobre.
Alors,
si Alexandre Medvedovski participe à la primaire, parce que pour l'instant on ne le sait pas encore, eh ben, on verra bien.
Et en tout cas, vous irez jusqu'au bout.
Ah, moi j'irai jusqu'au bout de la primaire, ça c'est bien clair. Voilà.
Bah, écoutez, Edouard Baldo, je vous remercie et on se retrouve le mois prochain. Bye.
Merci beaucoup.
Merci Baldo.